Bonjour, bonjour à tous, on se retrouve pour un épisode spécial Ligue des Champions, après la victoire de Monaco sur Tottenham et le match nul de Paris Saint-Germain à l'Emirates. On est avec les mêmes que d'habitude, Florent Tounissi qui est là. Florent, est-ce que tu vas bien?
Ça va très bien, merci.
Et avec Christophe Cuchely qui va un peu moins bien, puisque à Lille, c'est un peu le bordel en ce moment.
Mais oui, mais bon, ça va quand même, on essaye de survivre.
On en parlera en tout cas en fin d'émission, on parlera aussi un peu de Bordeaux avec Florent qui tient à nous parler le football amateur, parce qu'il vient d'en parler un peu aussi. Et on va commencer par la Ligue des Champions et par ce match du PSG hier soir, match nul 2-2 à l'Emirates. Un match qui a été jugé un peu différemment par certains médias, mais qu'on a trouvé plutôt encourageant pour le Paris Saint-Germain, Florent.
Oui, bah encourageant comme le match allait au final. On a une équipe parisienne qui a surtout fait une grosse performance défensive. On n'a quasiment pas vu Arsenal attaquer, quasiment pas vu surtout Mesut Özil, et ce sur les deux matchs. Donc ça, c'est très positif. Et ensuite, bah, il suffit de voir au-delà du score final que bah, les deux buts d'Arsenal sont quasiment donnés par les Parisiens, donnés par Krikoviak, donnés par Verratti. Et qu'à part un quart d'heure en début de deuxième mi-temps, Paris a dominé la rencontre, quoi.
Alors le match a commencé pour le Paris Saint-Germain en 4-3-3, Christophe, avec Matuidi ailier gauche, Thiago Motta relayeur et Krikoviak devant la défense. On aurait pu douter des choix Thiago Motta relayeur surtout et puis Matuidi ailier gauche, et finalement ça s'est vite confirmé comme une bonne idée puisque c'est sur le but que ces deux joueurs font la différence.
C'est vrai, mais moi je trouvais de manière générale les critiques d'avant-match un petit peu dures. Pour moi, Matuidi ailier gauche, ça fait sens. Pas juste pour dire de soutenir Emery sur ce coup-là, mais parce que je pense que Matuidi, relayeur, c'est pas mal, surtout au niveau de la Ligue 1, mais au niveau Ligue des Champions, ça a un peu montré ses limites, et que maintenant, c'est que ses facultés, elles sont plus au niveau du fait de se projeter, de prendre la profondeur, et de faire des centres en bout de course, que simplement de ratisser des ballons et de jouer les relayeurs classiques, ce qu'il faisait les années précédentes, mais là où il a quand même montré du déchet technique dans les transmissions. Donc clairement, ça pour moi, c'était un bon choix. Et même si par la suite, je trouve qu'il s'est un petit peu éteint, il continue à répéter son volume de course, mais il avait un peu de mal à trouver les espaces. En première mi-temps, ça s'est vraiment pas trop mal passé. Donc il donne ce but à Cavani. Krikoviak devant la défense, ça faisait sens, même s'il n'avait pas trop de temps de jeu en ce moment, parce que c'est un joueur qui est avant tout là pour détruire, pour réduire au silence le meneur de jeu adverse ou le meilleur joueur, on va dire, adverse dans cette zone-là, alors qu'en championnat, forcément, il y a beaucoup moins de qualité, donc il n'a pas forcément d'utilité. Il faut plus construire plutôt que détruire, donc là, il est un petit peu inutile. Et on a vu d'ailleurs que quand il a voulu être un petit peu trop technique, qu'il s'est un petit peu surestimé, ça a coûté un but. Et Motta relayeur, bon, Verratti relayeur aussi, pareil, un petit peu de déchet, mais il y avait quand même des bonnes séquences où on voit qu'il a un avenir à ce poste-là. Et Motta a montré que quand il veut jouer au foot et qu'il a la condition pour et qu'il est vraiment au top, ça reste quand même... Alors je ne sais pas si c'est le meilleur joueur de cette équipe, mais en tout cas c'est peut-être le joueur... qui a joué au plus haut niveau, qui a fréquenté le plus de clubs, qui a le plus d'expérience. Et on voit qu'il peut tirer tout le monde vers le haut pour, pourquoi pas, amener le PSG dans le dernier carré dans quelques mois.
Ouais, et puis c'est peut-être le joueur le plus facile techniquement de cet effectif, surtout dans les grands matchs. Ce 4-3-3, Florent aussi, c'était avec une visée défensive, celle de bloquer Özil. Et encore une fois, Unai Emery a montré qu'il était capable tactiquement de bien préparer ses matchs et de bloquer des équipes de qualité.
Oui, bah, de toute façon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si on va chercher, je sais que je les ressors beaucoup, mais si on va chercher les expected goals sur ce match-là contre Arsenal, Arsenal finit à 0,88 selon le modèle de Eleven Tegen sur Twitter. Donc 0,88, mais sur ce 0,88, il y a le penalty de Giroud qui pèse énormément. Et si on sort ce penalty, Arsenal finit à 0,12. But sur ce match-là, ce qui est une très grosse performance défensive du PSG. Alors, on a parlé des milieux, mais il faut aussi mentionner la performance de la charnière, Thiago Silva Marquinhos, qui a été très bonne en ayant en même temps quasiment que des miettes à récupérer, mais qui l'a très bien fait, qui a coupé 2-3 séquences, notamment en première mi-temps, où Thiago Silva coupe, je crois que c'est Ramsey qui essaye de transpercer le milieu avec une course, et Thiago Silva est là pour couper. Donc ça, ça a été très bien fait par les Parisiens. Et puis avec le ballon, on a eu une équipe qui a attaqué, on va dire, en deux temps, qui a construit en deux temps, puisque la plupart du temps, si elle ne récupérait pas le ballon haut, elle le récupérait quand même très bas de par son organisation défensive. Donc du coup, le premier temps, c'était de sortir de la pression adverse. Alors Arsenal n'en a pas mis beaucoup sur les premières minutes, mais il fallait quand même en sortir et du coup écarter le jeu pour se donner de l'air et pouvoir remonter le bloc. Donc ça, bah, autour de Mota, Verratti, Crico, ça s'est plutôt bien passé dans les premières minutes. Et ensuite, il fallait attaquer. Et là, on a vu quand même les progrès sur les 4, 5, 6 séquences en tout début de match jusqu'au but de Cavani, où Paris a construit assez patiemment au milieu de terrain. Il faut dire là encore qu'Arsenal les laissait faire pas mal, de part en mettant aucune intensité pour tenter de récupérer le ballon. Le bloc coulissait, mais il n'y avait aucune envie de mettre Paris en difficulté. En tout cas, c'est l'impression qu'il donnait. Et on a vu quand même de bonnes séquences où Marquinhos portait le ballon et allait créer le décalage et allait lancer Meunier, par exemple, à droite. Ou bien, lorsque Meunier était bloqué à droite, et ben on allait renverser à gauche, et c'est ce qui a amené le but au final.
T'as raison de le dire, Florent, parce que c'est en effet sur un renversement que Paris marque le premier but de Marquinhos et Thiago Silva. Et comme Krikoviak, lui, est redescendu entre les deux centraux, pour une fois, Thiago Silva, qui on a tendance à le critiquer parce qu'il avance pas assez le jeu, là, il l'a fait, il a avancé balle au pied, il a fixé un joueur, il a trouvé un partenaire. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau aussi dans cette équipe. Christophe, on voit qu'Emery a quand même travaillé certaines choses. On sait que les médias français sont assez durs avec lui, mais on voit peu à peu, et tu l'as dit hier sur Twitter, ce match montre qu'il y a vraiment une progression continue dans cette équipe.
Bah, ce match, il a une grande qualité, c'est qu'il est relativement correct, voire bon, en étant loin d'être abouti. Et en novembre, les meilleures équipes ne vont jamais au bout, ou très rarement. Il n'y a pas tellement de garanties à être bon en novembre, ça n'apporte pas grand-chose. Je me souviens que les dernières années, généralement, c'était le Bayern. Notamment, je me souviens d'un match contre City où le niveau de jeu était incroyable. Mais en février, mars, avril, ça garantit strictement rien. Ça montre juste le niveau maximum qu'une équipe peut atteindre, mais il n'y a pas de garantie qu'elle l'atteigne en février, en mars. Là, le projet de jeu d'Emery est quand même relativement récent. On est en novembre, ça fait 3-4 mois qu'il est là, qu'il peut commencer à mettre des choses en place, sachant qu'en plus, il ne peut pas tellement les répéter en championnat, puisque l'adversité n'est pas suffisamment bonne pour qu'il se mette dans une position, on va dire, par séquence. Paris va défendre, va devoir contrer, va devoir presser un adversaire qui est vraiment bon, voire très bon dans les sorties de balles. Donc forcément, les tests de ce niveau-là sont assez épars, sont assez rares sur cette saison. Et on voit qu'il y a quand même... Alors il y a beaucoup de points qui peuvent être améliorés. Verratti notamment, à un moment, il fait une belle percée au cœur du jeu où il se retrouve à l'entrée de la surface et il n'ose pas frapper. Mais sinon, il a quand même eu, notamment en première mi-temps, pas mal de déchets, pas mal de choix où on sentait qu'il était peut-être un petit peu plus habitué à jouer 6 qu'à jouer numéro 8 et qu'il n'avait pas forcément l'habitude de se retrouver dans des zones avancées du terrain où il n'arrivait pas forcément à faire les bons choix, à trouver les bons partenaires. Mais il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Je veux notamment parler de Lucas qui, au lieu de jouer l'ailier traditionnel à prendre la profondeur, et aller redescendre pour proposer des solutions entre les lignes. Et c'est un rôle que, par exemple, Di Maria pourrait au moins aussi bien faire. Et si on pense à tous les absents qu'il y avait, les deux latéraux titulaires n'étaient pas là, Rabiot aurait potentiellement pu prendre la place de Krikoviak, Di Maria donc, si on fait entrer Pastore à la place de Ben Arfa, si on passe en 4-2-3 en fin de match pour le mettre en numéro 10, je pense que ça peut aussi être vraiment pas mal. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites à partir de ça. Et donc j'en ai parlé très rapidement, le 4-2-3-1, ça montre quand même qu'il y a deux systèmes qui ont été utilisés en cours de match, ce qui n'était pas forcément souvent le cas avec Laurent Blanc. Les deux ont marché, on va dire raisonnablement, en tout cas sur des périodes, ils ont chacun montré ce qu'ils pouvaient apporter. Et mine de rien, si Paris arrive avec des joueurs qui peuvent faire d'autres choses que les années précédentes et avec deux systèmes dans sa manche, bah, ça peut permettre de voyager un petit peu plus serein que les années précédentes, en tout cas d'avoir une plus grosse marge de progression.
Alors Christophe a parlé justement de ce changement du 4-3-3 au 4-2-3-1 qui s'est passé en deuxième mi-temps autour de la 60e, il me semble. Florent, t'as trouvé que c'est arrivé peut-être un peu tard?
Ouais, dans le sens où Paris, en gros, donc, pour le moment on a parlé du positif, on a parlé du négatif, c'est-à-dire le temps faible, on va dire, à peu près de la 40e minute jusqu'à la 60e. à cheval sur les demi-temps, où en fait, tout simplement, tout à l'heure, j'avais quand même pas mal insisté sur la passivité d'Arsenal face à la mise en place du jeu parisien et du fait que les Londoniens ont vraiment laissé le PSG se mettre en place et attaquer tranquillement et poser son jeu, placer ses attaques, etc. À partir du moment où Arsenal a laissé beaucoup moins de temps, Paris a eu beaucoup plus de difficultés. Verratti a perdu quand même beaucoup plus de ballons que d'habitude. Le milieu a souffert, il y a eu la perte de balle de Krikoviak. Et surtout, ce milieu-là, Krikoviak, Mota, Verratti, à partir du moment où tu le presses, disons que tu ne crains pas grand-chose à le presser parce que ce ne sont pas des milieux qui vont se projeter. Ce sont des milieux qui vont peut-être lancer ensuite les trois de devant, mais ils vont pas se projeter. C'est-à-dire que c'est pas un milieu de terrain qui va suivre une attaque rapide. Ce qui fait que tu vas te retrouver généralement avec 60 ou 70 mètres à remonter, mais avec seulement 3 joueurs et qui en plus sont Lucas, Cavani et Matuidi, qui sont pas forcément les joueurs les plus justes sur le plan technique pour faire la bonne passe au bon moment dans le bon tempo par rapport à la course
Ouais,
du partenaire,
ce que tu
etc.
veux dire, c'est que si tu les presses, ces gars-là, comme ils n'ont pas tendance ni à t'éliminer ni à partir vers l'avant, ils vont repasser le ballon derrière et tu vas pouvoir te replacer correctement, même si
Exactement.
tu fais un pressing assez risqué.
Exactement, t'as pas grand chose à perdre à presser ce milieu-là au final parce que devant ça manque de qualité. Devant t'aurais la MSN, bon, je dirais pas ça. Là c'était Cavani, Matuidi et Lucas, donc c'est pas la même si les Matuidi et Lucas ont fait un bon match dans leur registre et dans leur capacité, on va dire. Mais donc à partir du moment où Arsenal a commencé à presser, pour moi il apparaissait clair que la solution pour Paris, c'était justement de faire basculer cette pointe au milieu de terrain, de passer d'une pointe basse à une pointe haute, de manière à rendre l'équipe tout simplement beaucoup plus dangereuse sur ses attaques rapides et voire sur ses contre-attaques, puisque Paris gardait toujours son bloc bas.
Puis à mettre un milieu dans le dos des milieux adverses qui pressaient aussi
Exactement.
pour avoir une
Et
solution entre les lignes.
c'est pour ça que l'entrée de Ben Arfa tombe vraiment sous le sens par rapport à l'évolution du match. Mais c'est vrai qu'à mon sens, elle arrive un peu tard, parce que elle arrive déjà après le deuxième but parisien, et même encore un peu plus tard. Alors que dès la 55e, 56e, tu sentais quand même que Paris avait vraiment beaucoup de mal à revenir. Et j'en viens même à me demander si c'est pas le deuxième but d'Arsenal qui a aussi calmé les ardeurs d'Arsenal au niveau du pressing et qui a ensuite permis à Paris de reprendre une respiration et de revenir dans le match. Et ensuite, il y a eu l'entrée de Ben Arfa. Après, c'est peut-être sévère de penser ça, comme je le dis, parce que d'un autre côté, il y avait un dilemme, c'est que sur le banc, t'as Ben Arfa, Ressé ou Ikoné. Et ce sont trois joueurs qui se sont pas forcément jusqu'ici fondus dans le collectif parisien. Or, pendant les 55 premières minutes, Paris est une équipe qui a très bien défendu. On l'a assez dit tout à l'heure, tous les joueurs qui ont fait un travail défensif et qui ont fait pas mal d'efforts pour suivre les actions, mais aussi revenir très bas et défendre avec le reste du bloc. Donc est-ce que Emery a retardé ce changement parce qu'il craignait que Ben Arfa, que Ressé ou Kikoné, c'est-à-dire que le joueur qu'il allait choisir, allait pas pouvoir faire les efforts sur la durée et de manière aussi régulière, et donc que ça allait déséquilibrer son équipe sur la phase défensive. Je comprends aussi pourquoi il a retardé le changement, mais c'est vrai qu'à mon sens, il est intervenu un peu tard dans le scénario du match. Et ça a donné l'impression que Paris a plus réagi qu'agi au final, à partir du moment où Arsenal les mettait en difficulté.
Alors, Christophe, j'espère que tu es prêt parce que je vais te lire une analyse de l'équipe. La note d'Emery est de 5 dans l'équipe d'aujourd'hui, celle de Wenger est de 6. Bon, ça reste très contestable. L'équipe dit sur Emery, le Basque a surpris avec des choix de départ contestables, Krikoviak, Matuidi. La double bourde du Polonais a failli plomber sa soirée, mais il a su bien rectifier la donne en cours de match quand Paris était mené en terminant en 4-2-3-1. Alors, c'est une lecture particulière du match parce que tu as l'impression que Paris rate sa première mi-temps. Alors que pas du tout, c'est en dehors de la bourde de Krikoviak qui ne dépend pas d'Emery, puisqu'il le fait jouer à son poste. Paris a été supérieur. Toi, ces expérimentations, ce 4-3-3, ce 4-2-3-1, Krikoviak, Mota, Verratti, ça t'a plu parce que t'es pas convaincu par le milieu à 3 préféré de Blanc, Mota, Verratti, Matuidi pour gagner la Ligue des Champions?
Voilà, moi je raisonne, j'ai envie de dire comme les dirigeants parisiens, je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils raisonnaient, mais en tout cas, le 4-3-3 que tu as cité avec le milieu maintenant devenu immuable en championnat, on a très bien compris qu'il y a à peu près personne qui pouvait l'embêter Et cette année, même sans Zlatan, on voit que c'est un petit peu plus compliqué, mais que dans la possession, dans la maîtrise du jeu, etc., a priori, il n'y a pas de rival et ça peut permettre quand même de. En tout cas, normalement, ça doit suffire pour être titré ou on va dire pas loin du titre en fonction de ce que feront Nice et Monaco qui en ce moment ont un rythme supérieur aux adversaires du PSG les années précédentes. Mais si on raisonne dans le fait de gagner la Ligue des Champions, moi je suis pas persuadé que. Alors Mota, a priori, oui. Verratti, pourquoi pas. Pour moi, Matuidi est quand même le gros point faible de ce milieu-là. Et si on commence à comparer avec les milieux des autres équipes, même si on va chercher du côté de l'Atlético, si on va prendre du Gabi à Augusto Fernandez, ou Koke, Saúl, etc., pour moi, ce sont des équipes qui sont bien mieux armées au milieu, alors qu'elles n'ont pas forcément l'ambition de tenir la balle. Et pour moi, il fallait changer quelque chose. Alors, ce qui est fait actuellement, je ne dis pas que ça va forcément permettre de gagner, d'aller plus loin. Ça se trouve, ça va être moins bien. Mais au moins, on ne sait pas quel est le potentiel maximum de cette équipe-là, avec notamment Matuidi côté gauche. Ou en tout cas, pas forcément Matuidi, mais en tout cas, avec notamment un Krikoviak en 6. Et j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Alors que le 4-3-3 classique, je sais ce que ça va donner, je sais ce que ça donne. Et en Ligue des Champions, pour moi, ça a atteint un plafond. Et je vois pas pourquoi ça ferait mieux cette année que les années précédentes. Alors qu'on sait que si ça arrive face à Barcelone, on va être face à une équipe qui fera la même chose en beaucoup mieux. Cette année, ça sera aussi le cas de City. Ça pourrait pourquoi pas être le cas du Bayern, qui, à mon sens, a eu à peu près la même réflexion que Paris. Alors, un peu plus forcé, parce que c'est plus Guardiola qui est parti que le fait d'avoir été mis dehors, comme ça a été le cas de Blanc. Mais le Bayern a pris un entraîneur comme Ancelotti, qui veut un peu moins de possession, qui veut un petit peu plus d'attaque directe, qui souffre en championnat, parce que les adversaires du Bayern, malgré tout, refusent généralement d'attaquer, même si c'est un jeu un petit peu plus ambitieux, un petit peu plus direct en Allemagne. Globalement, les adversaires laissent quand même le ballon au Bayern. Et vu qu'il a l'ambition de moins dominer et qu'il veut être un petit peu moins, on va dire, dictatorial sur le terrain, bah forcément le Bayern a un petit peu plus de difficultés. Mais l'ambition, c'est qu'en Ligue des Champions, tu aies un petit peu plus de possibilités et que quand la possession marche pas, tu puisses être capable de faire autre chose. Et là, pour l'instant, c'est deux équipes qui souffrent, mais deux équipes qui essayent de nouvelles choses. Pour le Bayern, je suis un petit peu moins convaincu, surtout que ce qui était fait par Guardiola était quand même vraiment pas très loin d'aller au bout les années précédentes. Pour Paris, on sait où est le plafond, donc tentons quelque chose. Et puis, je pense qu'Henry est assez intelligent pour changer en cours de match, comme là on l'a vu. Et au final, on a vu à la fois, comme je disais tout à l'heure, les vertus du premier plan qui fait que tu mènes 1-0 et que tu arrives à 1-0 à la mi-temps sans avoir concédé le moindre tir, si Krikoviak improvise pas un dribble un peu débile, puis un tacle débile. Et en deuxième mi-temps, tu vois que tu es mené et que tu arrives une nouvelle fois à faire le bon changement qui te permet de revenir dans le match. Et ça, plus tactiquement qu'avec l'entrée du joueur, parce que Ben Arfa fait pas une mauvaise entrée. Il fait quelques erreurs, il fait quelques bonnes choses, mais c'est dans l'équilibre collectif, le fait de mettre un joueur dans cette zone-là permet de, on va dire, de restructurer un petit peu l'équipe de manière différente, de reprendre le contrôle du jeu et de gagner. Donc pour moi, il y a deux bons choix. Tout n'a pas été bon. Mais Emery, ça me paraît difficile de lui mettre quelque chose sur le dos après ce match-là.
Donc là, en fait, moi j'ai l'impression que la réflexion du Bayern, Florent, et la réflexion d'Emery, c'est que si on suit l'histoire récente de la Ligue des Champions, la plupart des vainqueurs étaient des équipes flexibles, capables de jouer de plusieurs façons, de jouer avec un pressing haut, de jouer avec un bloc bas, d'avoir le ballon assez longtemps. Et le projet Krikoviak, ce fait de le faire entrer justement juste pour les gros matchs dans ce rôle de numéro 6 un peu destructeur, ça rejoint ce projet de jeu plus flexible et moins, on va dire, idéologue que celui de Blanc du 4-3-3 avec beaucoup de ballons et beaucoup de possessions.
Oui, après, même si Laurent Blanc disait qu'on s'en branle du projet de jeu,
Oui, c'était pas vrai, ça.
mais non, mais c'est vrai que la flexibilité, à partir du moment où t'as pas les meilleurs joueurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les meilleurs joueurs ils sont où? Ils
Au
sont
Barça.
au Barça, point.
Ou
T'as la MSN,
au Real à la limite, quoi, si tu veux.
ouais, et encore à la limite, parce que tu vois que Zidane, même pour affronter l'Atlético, justement,
Ouais.
il est flexible. Il est flexible et
C'est
c'est ce
vrai.
qui permet au Real de faire un résultat et de faire deux résultats même contre l'Atlético, le 3-0 là et la finale de la Ligue des Champions remportée en mai dernier. Et c'est vrai que le fait d'être flexible, d'avoir plusieurs plans, d'avoir des joueurs de profils différents pour apporter des choses différentes selon l'adversaire, à partir du moment où tu n'as pas la meilleure équipe et les meilleurs joueurs, c'est quelque chose d'indispensable. Même Guardiola à City, quand il affronte le Barça, il s'y est mis. Sur le deuxième match, il a vu, autant sur le premier, quand ils prennent 4-0, il fait jeu égal, il a pressé presque la possession et pendant jusqu'à l'expulsion de Bravo, où ils ne sont menés que 2-0 ou 1-0 à ce moment-là, je sais même plus. Mais bref, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux équipes. Par contre, au match retour, qu'il finit au final par remporter, il garde le pressing. Et c'est vrai qu'avec la balle, il n'avait pas Bravo derrière. Et ils ont adopté un jeu beaucoup plus direct sur ce deuxième match. Et ils font la différence au final sur un coup de pied arrêté et ensuite en contre-attaque. Avec un bloc un peu plus bas pour bloquer le Barça. Donc la flexibilité, c'est quelque chose de capital aujourd'hui pour aller loin en Coupe d'Europe. À part, surtout si tu n'as pas les meilleurs joueurs. C'est peut-être d'ailleurs ce qui pose problème actuellement au Barça, qui s'appuie énormément sur la MSN, mais qui là commence à souffrir et à avoir du mal dans certains matchs. Parce qu'il n'arrive pas non plus à se sortir forcément de ses habitudes de jeu. Il suffit de prendre le match contre Séville où il ne trouve pas de solution et c'est vraiment un éclair et Messi qui porte l'équipe. Et bon, tant qu'ils ont la MSN, je pense que ça va bien se passer pour eux, mais on voit bien que dans le jeu, Luis Enrique a du mal à apporter de nouvelles choses dans cette équipe et peut-être qu'elle commence un petit peu à tourner en rond. Quand une équipe de toute façon arrête d'évoluer, généralement la fin de cycle est pas loin derrière après. Alors on va pas
en
dire.
En plus Busquets c'est pas très très bon cette année.
En plus.
C'est limite lui le pivot de tout le jeu sur la partie construction.
C'est vrai que je sais plus quel entraîneur a dit ça récemment. Je me demande si c'est pas Simeone sur l'évolution de son Atlético qui justement progresse cette année sur la construction. Et sur le jeu placé, et malgré la défaite contre le Real, voilà, une équipe qui arrête d'évoluer et qui arrête de travailler ses points faibles et qui arrête de chercher de nouvelles solutions pour progresser et être plus complète, c'est une équipe qui est sur le point de mourir. Et ça, en soi, le PSG l'a vu jusqu'au fiasco de Man City l'année dernière. C'est qu'on a eu 3 ans d'un PSG quasiment monolithique, identique d'une année à l'autre et de match en match, et de Ligue 1 à Ligue des Champions. Et ça s'est fini sur un match qui résume assez bien son impuissance à franchir les quarts de finale et son incapacité. Et c'est vrai que Emery, de toute façon, a été pris pour faire de la performance en Coupe d'Europe parce qu'il a fait sa carrière au final et sa réputation sur sa perf en Coupe d'Europe. Et sur les deux premiers tests qu'il réalise contre Arsenal, qui sont les deux premiers vrais tests du PSG en Coupe d'Europe, on ne peut que saluer ce qu'il a mis en place et ce qu'il a fait. Et je vois pas comment on peut lire les choses autrement qu'en faisant preuve de mauvaise foi.
Ah bah, tu sais, la mauvaise foi est rampante dans ce milieu. On va passer, messieurs, à Monaco, vainqueur de Tottenham mardi soir dans un match assez sympa d'ailleurs à voir et que on a tous vu ici d'ailleurs, il me semble. Vous l'avez vu, ouais. Messieurs ? Voilà, très bien. Christophe est parti, mais il l'a vu, j'imagine. Vous êtes en train de ranger son
Absolument.
Chat quelque part.
Voilà. Okay. J'ai suivi tout ça.
Victoire 2-1 de Monaco face aux Londoniens. Une performance dans la lignée de ce qui se passe cette saison avec Jardim, Christophe, c'est-à-dire une équipe capable offensivement avec le vrai apport des latéraux dans cette équipe, Sidibé et Mendy qui apportent une vraie différence par rapport à la saison dernière.
C'est vrai, et qui par rapport à il y a 2 saisons permettent à Monaco d'avoir des victoires maîtrisées en Ligue des Champions plutôt que des victoires assez heureuses. Parce qu'on se souvient que Monaco finalement n'est pas si loin que ça de faire une demi-finale dans son match contre la Juve où ça se joue un penalty. Mais il y avait quand même une part de chance, on était surtout sur la solidité défensive et sur le fait de convertir ses occasions. Alors que là on voit contre Tottenham, c'est presque Tottenham qui a été réaliste, alors même si Son rate un face-à-face en début de match. Et Monaco qui a gaspillé, je crois qu'à un moment, vers la 60e, on était à 13 tirs à 3, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, c'était Monaco qui dominait assez nettement dans les chiffres et dans le jeu également, même si c'est Tottenham qui avait la possession, mais c'était une possession très défensive où ça faisait tourner derrière sans trop savoir quoi faire. Et généralement, Tottenham voyait le bloc monégasque ne pas bouger. Vous voyez Falcao et Germain aller au pressing, aider d'un milieu, alors soit Bakayoko qui sortait, soit l'un des deux ailiers, selon où se situait le jeu, et qui finissait par balancer devant. Alors je ne sais pas s'ils n'osaient pas aller au cœur du jeu, n'osaient pas prendre de risques, ou si c'était une solution qu'ils pensaient pas mauvaise avec des déviations aériennes ou autre, mais généralement ça finissait en touche ou alors sur des têtes monégasques, donc c'était rapidement aveu de faiblesse. Et de l'autre côté, Monaco, qui, face à une équipe alors qu'elle était quand même un petit peu remaniée et qui, en Ligue des Champions, n'a pas prouvé qu'elle pouvait être vraiment un adversaire de très très haut niveau. Je pense qu'en Ligue des Champions, c'est un moins gros test, par exemple, qu'Arsenal. Mais sur ce match-là, on a vu, alors, on peut vraiment féliciter un peu tout le monde. Il y a vraiment pas mal de choses à ressortir de ce match-là. Moi, là, j'en citerai deux comme ça. C'est bon, c'est pas forcément nouveau, hein, mais ça fait toujours bien d'avoir une confirmation dans un match décisif, hein, pour la qualification et pour assurer la première place. On a à la fois la complémentarité Falcao-Germain. Germain que j'ai vraiment trouvé excellent, surtout dans le QI football. Je trouve pas que ça soit le joueur le plus technique au monde. Il a encore un peu de raté face au but. Il fait peut-être pas toujours les bons choix, peut-être un petit peu trop altruiste ou autre. Mais en tout cas, dans les courses, dans la manière dont il gère le pressing, dans la manière dont il envisage le terrain de manière spatiale, il va toujours vraiment au bon endroit, à la fois pour aider ses partenaires et pour embêter l'adversaire. Et ça permet aussi à Falcao d'avoir des espaces, de briller, etc. Donc vraiment, Germain, joueur qui, je pense, bonifierait à peu près n'importe quel attaquant qui serait avec lui dans un 4-4-2. Et surtout les latéraux qui, contrairement à l'année dernière, sont vraiment des joueurs, alors pas trop mauvais défensivement, mais surtout excellents offensivement. Avec Sidibé, bon, qui en plus est international, il n'y a plus trop besoin d'en parler, même si en ce moment il est un tout petit peu moins bien. Mais surtout Mendy qui fait un match énorme, qui a passé tout son temps à dévaler le couloir, qui a toujours réussi à partir dans le dos du latéral adverse, qui donne une passe décisive justement d'un latéral à un autre latéral, donc chose quand même assez rare, qui a trouvé vraiment beaucoup de solutions, beaucoup d'espace, qui a fait les bons choix, bonne qualité de centre en bout de course. Et alors c'est un petit peu le truc facile qu'on dit dans ces cas-là, mais là on voit qu'on est sur un joueur vraiment pas très loin de l'équipe de France, un joueur de niveau Ligue des Champions. Alors après il y a une question de régularité dans les performances, mais des matchs comme ça, moi j'ai regardé le match en rediffusion sur BT, la chaîne anglaise, et les consultants disaient qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de joueurs de cette qualité, des latéraux de cette qualité dans le championnat d'Angleterre et en équipe d'Angleterre. Donc c'est quand même...
Bielsa voyait un très grand avenir à ce joueur, et d'ailleurs quand on se rappelle du discours qu'il lui avait fait, où il disait qu'il s'y sacrifiait, il pouvait devenir un très grand joueur mais qu'il allait perdre une part de bonheur. Alors Christophe a dit beaucoup de choses, Florent. On va d'abord passer sur ce qu'il a dit en tout premier, où il disait qu'avec l'équipe de Jardim d'il y a deux saisons lors de l'épopée européenne, c'était surtout une équipe qui défendait bas et qui ensuite se projetait rapidement. Là c'est une équipe qui est un peu plus polyvalente. Alors certes Tottenham a eu la possession, à peu près 60-65% de possession, mais Monaco est capable d'avoir des longues phases de possession et de faire la différence sur attaque placée, comme on l'a vu sur le but de Sidibé où c'est Mendy qui centre et Sidibé qui finit au deuxième poteau.
Oui, c'est une équipe qui est très complète au final. Il y a eu 3 ans de travail derrière avec Jardim, et c'est une équipe qui arrive à maturité aujourd'hui, tout simplement, qui maîtrise toutes les phases de jeu, qui peut presser, qui peut rester en bloc médian, qui peut défendre bas, qui peut tout mettre sur les transitions, qui peut opérer en contre, qui peut placer ses attaques comme tu l'as dit. Et c'est vrai qu'offensivement, comme l'a dit Christophe, le danger en fait vient de partout. Autant l'année dernière, tu avais très souvent une dépendance.
Ouais. Et puis rappelons que l'année dernière, les latéraux c'était Echegilé et Ragui le plus souvent. Donc
ouais. Pas non plus... Tu avais une dépendance à Bernardo Silva ou à Lemar. Parce qu'après, en plus devant, t'avais Lassina Traoré, mais tu pouvais pas trop poser dessus dans le jeu parce qu'il était pas mobile, et dans le jeu en une touche et en remise, c'est pas bon. Wagner Love, tu pouvais pas t'appuyer dessus non plus.
Je l'avais oublié.
Et oui, c'était eux les attaquants l'année dernière. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu as Germain, Falcao qui bougent bien, qui font des très bons déplacements, qui sont complémentaires, qui savent se rendre disponibles dans les espaces entre les lignes pour permettre la progression du jeu, et ce qu'attendent Bernardo, Lemar, Mendy ou Sidibé sur les côtés, c'est-à-dire des appuis du jeu, tout simplement en appui, remise, des 1-2, des combinaisons en une touche, et ensuite pour chercher la profondeur, t'as une équipe qui peut construire de n'importe où en fait. Il n'y a plus aucune dépendance à un ou deux joueurs. T'as même pas au final de jeu de position à proprement parler, parce que le jeu vient surtout de la capacité de Mendy, de Sidibé, de Bernardo, de Lemar, voire de Fabinho Bakayoko parfois, parce qu'ils s'y mettent aussi à la création, de donner l'impulsion au jeu, de donner la première passe. Et ensuite, c'est vrai que techniquement, c'est un effectif assez homogène, qui, au point, sont des joueurs qui parlent le même football. Et c'est très agréable à voir évoluer. Et c'est assez logique aussi de voir que Monaco, aujourd'hui, bah, a la meilleure attaque de France, mais aussi d'Europe, parce que le danger peut venir de partout. L'équipe, en plus, est toujours efficace et dangereuse sur coup de pied arrêté. Quand tu as des tireurs comme Lemar, c'est toujours aussi...
Puis,
c'est toujours simple.
Puis des buteurs comme Glick qui finissent toujours. Glick qui va finir encore à 10 buts par saison comme chaque année.
C'est ça, t'as Glick et puis t'as Falcao, il peut finir à 15 buts, on va dire minimum. Germain, pareil. Lemar, Bernardo Silva, ça peut faire entre 5 et 10, et encore c'est peut-être la fourchette basse. T'as Mbappé quand il rentre dans l'équipe qui score assez souvent. Mendy, Sidibé, c'est des latéraux qui peuvent faire marquer. Voire qui peuvent marquer, on l'a vu. Fabinho, c'est quelqu'un qui a déjà mis 5 buts. Certes, il tire les pénaltys, mais c'est quelqu'un voilà, qui peut apporter aussi. C'est un petit peu l'anti-PSG, c'est-à-dire où Paris est ultra dépendant de la réussite de Cavani aujourd'hui offensivement. Monaco, ouais. Les buteurs, ça peut venir de partout aujourd'hui.
Un peu comme la Juve de la première saison de Conte, où il y avait plein de milieux qui marquaient, c'est plein vrai, d'attaquants ouais. qui marquaient, Vucinic, Vidal, Colliarella, etc. C'est aussi une équipe, Christophe, qui a réussi à rester compétente en phase défensive. Alors on sait que c'était la vraie réussite de Jardim depuis son arrivée à Monaco, ce 4-4-2 qui défend très bien. Finalement, dans ce système qui plaît à beaucoup d'équipes, à Leicester, à l'Atlético, beaucoup d'équipes qui savent très bien défendre.
C'est ça, c'est un 4-4-2 à plat vraiment, vraiment cohérent. Moi, ce qui m'a impressionné sur ce match-là, c'est la manière dont il se déplace. Alors, ça n'a rien de révolutionnaire, hein. C'est simplement vraiment bien maîtrisé. À chaque fois, ça coulisse dans le bon tempo, ça fait les bons choix, ça se livre pas, ça sait sortir quand il faut sortir pour mettre un petit peu la pression à l'adversaire, mais ça arrive malgré tout à très peu s'exposer, alors que pourtant, on en parlait un petit peu hors antenne, il y a notamment Jamerson en défense centrale qui est pas... voilà, on a tous un petit peu des doutes sur ce joueur-là, qui, à la fois sur son niveau défensif, mais même dans ses relances, lui qui s'appelait Blackenbauer avant de venir, sous-entendu, je suis un peu un libéro moderne, on voit que c'est pas tout à fait ça. Et malgré tout, avec Fabinho, qui a longtemps joué latéral droit, qui maintenant joue au milieu, et Bakayoko, qui a été recruté assez jeune, on voit que ce sont deux joueurs qui maintenant, alors je sais pas s'ils font partie de l'élite, est-ce qu'on peut vraiment... qualifiés d'élite, etc., mais qui, à leur poste, sont devenus vraiment très compétents, qui s'insèrent parfaitement dans ce système-là, qui se comprennent surtout très bien, c'est-à-dire qu'ils arrivent à chaque fois à compenser, je parlais tout à l'heure de Bakayoko, qui des fois sortait au pressing et qui allait limite juste derrière les deux attaquants pour mettre un petit peu de pression, et bien à chaque fois, c'était bien compensé, il y a Lemar qui se recentrait, il y a Fabinho qui arrivait à prendre le poste, on va dire, de numéro un peu plus numéro 6 plutôt que numéro 8, Et vraiment, dans l'articulation défensive, ça n'a rien de franchement spectaculaire et de révolutionnaire. Il n'y a pas non plus des milliers de trucs à dire. Mais c'est un petit peu comme le bon Atlético, c'est-à-dire que c'est un 4-4-2 qui, à chaque fois, arrive à défendre bien les zones, à bloquer l'adversaire sur les côtés, à déclencher le pressing quand il faut, à ne pas se livrer, à concéder assez peu d'occasions. On voit que sur les deux occasions que j'ai en tête qui concèdent, il y a le but... qui est une balle aérienne un peu mal jouée par Glick, un peu bien jouée par Ali, qui je pense fait un peu exprès de se faire coincer le bras. Et l'autre, c'est on va dire que c'est un mauvais pressing, et c'est un peu une incompréhension au milieu, et ça joue le hors-jeu un petit peu trop tard. Je crois que c'est que Mendy qui est légèrement en retard sur tout le reste. Mais sinon, non seulement ils concèdent très peu d'occasions, mais ils mettent pas l'adversaire en situation de s'en procurer. Et on voit que le 4-4-2 à plat... Alors c'est une confirmation, c'est pas une révélation, mais quand il est bien maîtrisé et quand l'équipe joue comme ça depuis longtemps, on va dire que la géométrie inhérente au système, avec les coulissages, etc., font que c'est là que tu quadrilles le mieux le terrain, comme le pense Christian Gourcuff, en tout cas en phase défensive.
Alors Christophe a mentionné ce duo Bakayoko-Fabinho dans ce 4-4-2. Florent, c'est peut-être là la vraie... Comment dire, le reste du Jardim défensif et du Jardim conservateur, c'est ce duo de deux joueurs très physiques, très récupérateurs, mais qui en même temps t'assurent une vraie base solide devant la défense.
Ouais, bah c'est le double pivot hein, de Jardim, pas très joueur, qui ne demande pas la balle. On laisse, comme je le disais tout à l'heure, le soin de la création offensive aux côtés en général. On peut s'y insérer de temps en temps sur un coup à jouer, une transition, mais c'est vrai que généralement, ce sont ces deux joueurs qui sont les garants de l'équilibre hein, de l'équipe en phase offensive et qui sont aussi les premiers récupérateurs de ballon. Je crois que Si on regarde dans les chiffres, je les ai pas exactement en tête ni sous les yeux, mais je crois que Fabinho et Bakayoko font partie des joueurs, si on prend les deux stats qui permettent d'évaluer l'activité défensive, en Ligue 1 en tout cas, Fabinho Bakayoko doivent faire partie des meilleurs en tacle et en interception, ou en tout cas en termes de tacle tenté et d'interception.
Écoute, là, j'ai la Ligue des Champions, Flo, devant moi. Parmi les 10 premiers, il y a Djibril Sidibé, 5e en tacle, et 9e Fabinho. Donc tu vois, t'étais pas très loin de ce qu'on disait là-dessus. Et Bakayoko qui est dans le top 20 avec la 19e place.
Voilà, donc, bah, c'est pas très surprenant. Et ce sont deux joueurs qui ont quand même un très très gros volume de jeu. Bakayoko avait eu des problèmes quand il est arrivé à Monaco de blessures. Mais il était au final appelé, même dès sa signature, à prendre la place de Kondogbia quand Kondogbia allait partir. Ça a mis un peu de temps. Il a fallu qu'il comprenne des choses. Ça n'a pas toujours été facile avec Jardim, si mes souvenirs sont bons. Mais là, on a un joueur quand même très complet et qui est prêt. Alors c'est un peu triste de dire ça comme ça, mais qui est prêt à être vendu 40 millions d'euros l'été prochain, quoi, s'il a envie de partir. Et c'est la même chose pour Fabinho d'ailleurs. C'est la même chose pour les deux. Et c'est vrai qu'avoir une telle paire à Monaco, au final, de joueurs qui sont arrivés sur la pointe des pieds, personne ne les a trop calculés. Et ça montre bien aussi la qualité du scouting et du recrutement de la SM. Parce que cette paire-là, ils ne sont pas allés la chercher pour des 100 et des 1000, même si Bakayoko leur a coûté une certaine somme, je crois, vu qu'il avait pris à Rennes pour 8 ou 10.
Ouais, 8 ou 10, ouais. Mais bon, la revente.
Mais voilà, la revente sera. Exactement.
Un joueur qui peut prétendre à l'équipe de France. Hein. Il a fait toutes les sélections de jeunes. Il a 22 ans, il est franco-ivoirien, Bakayoko. Donc, il peut-être... on ne sait pas encore s'il va choisir une des deux, mais il pourrait être dans une des prochaines listes. Alors, tu l'as dit, il y a un bon recrutement. Florent, la question, Christa, ça va être est-ce que. À plus long terme, est-ce que maintenant que Campos est parti, Christophe, est-ce qu'on va réussir à continuer à Monaco dans cet esprit-là et dans cette performance-là ?
Dur à dire, mais en tout cas, là, je pense que ce que Jardim a trouvé, il va garder ça jusqu'à la fin de saison avec, comme le disait Flo tout à l'heure, la possibilité de faire du turnover. Alors, c'est pas que des joueurs incroyables. Je pense notamment à Cario, qui est peut-être pas le meilleur attaquant du monde, mais qui est un attaquant de pivot qui permet... déjà un de soulager ses partenaires en fin de match, enfin d'offrir quelque chose de différent qui peut aussi débuter certains matchs de championnat.
Ouais, mais j'ai l'impression que c'est Christophe que c'est un groupe très homogène où il y a 15-16 options qui sont de niveau à peu près égal.
Bah c'est ça, et puis donc là je citais Cario qui permet de faire un petit peu différemment en attaque avec du jeu un peu plus aérien, un peu plus un profil déménageur. On a Moutinho au milieu, si tu veux mettre un petit peu plus de jeu, tu peux le remplacer, remplacer Fabinho par Moutinho. À l'inverse, si tu veux faire comme faisait un petit peu l'Atletico quand ça mettait Koke sur un côté, tu peux remplacer Lemar par Moutinho, par exemple.
Ouais. Ou Bernardo,
si tu veux avoir un petit peu plus de contrôle.
Il a fait contre Paris en début de saison, je crois que Moutinho joue sur un côté, justement.
C'est il ça, lui arrive de rentrer en cours de match sur le côté aussi.
C'est ça. T'as Mbappé, donc on ne connaît pas encore... le potentiel maximum,
mais c'est pas mal.
D'ici la fin de saison, peut très bien s'affirmer comme étant un taux de titulaire potentiel et prendre régulièrement la place de Germain. On a Boschilia qui a un bon tireur de coup de pied arrêté, qui a un potentiel. Alors je sais pas si je sais pas jusqu'où il peut aller, mais en tout cas il y a quand même du talent. On est vraiment sur une variété assez intéressante et variété qui est surtout sur les postes offensifs, parce que derrière on va assez rapidement faire entrer du Radji. On va assez rapidement faire entrer du Almami Touré, qui est quand même très jeune. Après, je regarde l'effectif. Là, c'est le fils Endoram, il me semble. En tout cas, c'est la famille de l'autre. Et enfin, c'est des joueurs quand même assez peu, qui ont assez peu prouvé. Et là, finalement, on a aussi Corotin Jean, qui est complètement oublié, mais qui est un joueur qui n'est pas trop mauvais. Alors, pas pour la Ligue des Champions, mais qui offre des solutions. Et au final, là, la plupart des solutions, il y a aussi Nabil Dirar, qui était le meilleur passeur l'an dernier, qui va ensuite revenir de blessure. La voie choisie par Monaco va être offensive et Jardim est pragmatique et il était pragmatique version défensive il y a quelques années et là il est pragmatique version offensive parce que ses talents ils sont devant quoi tout simplement.
Ouais, puis si on regarde parmi les joueurs qui jouent dans le champ, c'est-à-dire sauf les gardiens, il y a 5 ou 6 joueurs qui sont au-dessus des 25 ans et le reste c'est entre 17 et 24 quoi. Donc c'est une équipe qui peut partir en vrille si ça se passe mal, mais qui pour l'instant progresse tous ensemble. Et c'est assez intéressant ce que réussit à faire Jardim, alors qu'on chaque année on a l'impression qu'il est critiqué et qu'on n'arrive pas à trouver des choses positives à Monaco. Bah, ça continue de progresser. On va passer maintenant à des choses moins réjouissantes, avec Florent qui va d'abord nous parler de Bordeaux. On va finir par Lille, puisque l'actualité est un peu plus chaude à Lille, donc on garde ça pour la fin. Parle-nous du projet Gourvennec, Florent, comment ça avance? J'ai l'impression que tu es un peu plus souriant qu'avant par rapport à ce qui se passe là-bas.
Souriant, je sais pas, mais disons que ça avance petit à petit, ça avance. Alors pour rappeler un petit peu la situation d'il y a quelques semaines, on avait une équipe de Bordeaux donc qui a démarré en 4-4-2 à plat, hein, avec Toulalan et Plasil au milieu de terrain, ou bien avec Valentin Vada lorsqu'il devait entrer en jeu et lorsqu'il fallait faire souffler un des deux anciens. Alors, défensivement, ça fonctionnait plutôt bien, même s'il y avait eu un match complètement raté en 4-3-3 contre le PSG. Défensivement, l'équipe a vite intégré l'animation, le fait de devoir resserrer les lignes en phase défensive, etc. Enfin bref, un 4-4-2 à plat qui fonctionnait plutôt bien pour défendre. Par contre, le problème, c'était pour attaquer. C'est-à-dire que quand vous repartiez des défenseurs de Palois ou de Levchuk, puisque c'est le Polonais qui s'est imposé aussi en défense à son arrivée, il y avait un gros problème pour ressortir la balle, parce que vous aviez Toulalan Plasil, et ensuite il y avait un no man's land d'une quarantaine de non, j'exagère, de 20-25 mètres entre ces joueurs qui relançaient et l'attaque. Et même les latéraux qui n'étaient pas disponibles. Donc il y avait un gros problème pour progresser et avancer dans la moitié de terrain adverse. Et ça, évidemment, quand tu joues avec un quatuor offensif qui, dans le meilleur des cas, s'il n'y a pas de blessé, c'est Ounas, Malcom, Menez et Diego Rolan, c'est un peu bête de ne pas réussir à avancer au sol et à pas trouver ses joueurs dans les pieds, c'est-à-dire dans les meilleures conditions pour eux. Donc, il y avait vraiment un besoin de progresser sur le plan de la mise en place et des premières passes, de la relance, du début de la construction. Et du coup, on ne pouvait pas, enfin, au fil des matchs, on s'est rendu compte que on pouvait pas s'appuyer sur les défenseurs. Palois ou Levchuk avançaient quand même très peu avec le ballon. Sertic a fait des piges au milieu et était pas forcément le milieu qu'il nous fallait à ce moment-là. Toulalan, qui avait été très prometteur pendant la préparation, s'est révélé au final assez vite dépassé. Bon, il a été blessé, il est revenu de blessure. Est-ce qu'il est encore un petit peu en retrait à cause de ça? Je ne sais pas, mais c'est compliqué pour lui dans ce rôle-là. Ce qui fait que le 4-4-2 au final est vite devenu un souci. Et donc, il y a eu une première évolution face à Lorient, juste avant la trêve, où Bordeaux s'est présenté en losange, c'est-à-dire avec Levchuk et Palois derrière, et ensuite un milieu de terrain composé de Toulalan en 6, Plasil et Vada en 8, et Malcom en position numéro 10, avec Menez et Rolan devant.
T'es en train de nous dire que Gourvennec fait une Rémy Garde en fait.
Et ça y ressemble un petit peu, même si Garde jouait pas en 4-4-2 à plat, je crois avant, c'était plus un 4-3-3, dans mon souvenir. Mais c'est vrai que dans l'idée, l'idée est simple, hein, quand tu joues en 4-4-2 et que tu n'arrives pas à avancer et à progresser avec le ballon. Et avec tes défenseurs, tu rajoutes des solutions tout simplement au milieu de terrain et de manière à faciliter l'avancée. C'est-à-dire que tu fais reculer ton milieu et tu t'enlèves des solutions devant, ou en tout cas sur les côtés plutôt, pour densifier ton milieu et favoriser l'avancée et la progression vers le but adverse. Alors contre Lorient, ça n'a pas été exceptionnel non plus. Même si le premier but bordelais vient d'un très beau mouvement, les deux buts d'ailleurs girondins viennent de jolis mouvements, et j'insiste sur le premier parce que ça vient d'un ballon porté et amené par Sertic dans la
Avec
moitié de terrain adverse.
un énorme match de Sabali au passage.
Avec un très bon match de Sabali en effet. Et du coup, ce losange pourrait être une solution à court terme, c'est-à-dire en attendant de pouvoir avoir des défenseurs ou des milieux au niveau requis pour pouvoir assurer la relance eux-mêmes. C'est vrai que ce losange permet un petit peu de masquer les lacunes individuelles en ajoutant des solutions et dans l'entrejeu, ce qui fait que tu remontes le terrain moins vite, mais tu gardes au moins la balle et tu arrives au moins à rentrer dans les 40 mètres adverses. Alors, le problème qu'on a rencontré contre Guingamp, c'est qu'ensuite, dans les 30 derniers mètres, c'était un petit peu laborieux parce que, en même temps, bah, du coup, quand t'es en losange, t'as quand même besoin d'avoir des attaquants qui peuvent participer au jeu. Or, à part Menez, Rolan et Camano ont fait un très mauvais match dans la construction. Et en plus, t'avais Sabali et Pungé sur les côtés. Alors, autant Sabali peut animer un couloir, je pense. Autant le côté gauche avec Pungé et Contento, c'est un peu plus laborieux pour pas dire irrégulier. Non, irrégulier pour pas dire laborieux. Alors peut-être qu'il y aura un recrutement d'ailleurs d'un latéral
Ouais,
gauche cet hiver.
j'allais te demander juste avant de dire que c'est rassurant parce que Gourvennec, depuis son arrivée à Guingamp en Ligue 1, je crois, n'a rarement, voire jamais dévié de son 4-4-2
Ouais, c'est
à
ça.
plat. Donc c'est intéressant de voir qu'il peut changer. Et deuxièmement, justement, pour pallier à ces lacunes, est-ce qu'il y a des pistes pour le mercato ou est-ce que Bordeaux va faire encore un mercato assez peu actif?
Bah disons que déjà ce losange-là, j'aimerais le voir avec d'autres joueurs. C'est-à-dire Ménès, j'ai bien aimé son match en numéro 10. Alors beaucoup de personnes l'ont critiqué parce qu'il a manqué le penalty et juste après le penalty, il fait une reprise que normalement il doit mettre au fond à 5 mètres du but et il la met à côté. Mais si on sort de ce fait de jeu-là, je trouve qu'il a fait un très bon match. C'est-à-dire qu'il a été disponible en tant que numéro 10. Il est revenu chercher les ballons. Il les a bien orientés ensuite. Alors il a eu un peu de déchets, mais pas plus, loin de là, que les autres, que Vada, que Rolan, que Camano. Et je l'ai trouvé très intéressant en 10, et c'est vrai que l'équipe a une marge de progression, ne serait-ce qu'en mettant des joueurs en forme. C'est-à-dire qu'un joueur comme Malcolm, qui avait été utilisé en 10, pourrait peut-être être encore plus intéressant en position d'attaquant, et avec Menez en numéro 10. Et à voir aussi avec Adam Ounas à caler quelque part. Moi, je pense qu'il serait très fort en numéro 10 derrière deux attaquants. Il pourrait faire très très mal de haut but avec sa vivacité et sa capacité à se retourner très vite, à se mettre dans le sens du jeu. Mais c'est vrai que tu as toujours cette limite-là des latéraux. Et c'est vrai que bon, il y a une rumeur qui sort en ce moment, c'est le retour de Tremolinas.
Ah oui, ça, ce serait fort, ça.
Et ça, ce serait, bah, quand tu vois le système et si le losange doit rester, tu récupères Tremolinas, tu ne peux qu'y gagner.
Et parce que Tremolina, ça a de la concurrence à Séville avec Escudero qui fait un très gros début de saison à Séville et qui est parmi les meilleurs joueurs du championnat d'Espagne à son poste en ce moment.
C'est ça. Et
Donc,
en plus, il revient de blessure. Alors, certaines personnes qui le connaîtraient disent qu'il serait pas contre l'idée de revenir en Ligue 1 et de revenir à Bordeaux, surtout de rentrer à la maison vu qu'il a 31 ans au final, c'est quelqu'un qui a éclos sur le tard. Mais bon, c'est vrai que s'il doit se retrouver sur le marché cet hiver, il aura Bordeaux comme solution, mais il y a aussi une autre équipe qui cherche un latéral gauche, c'est l'Olympique de Marseille, et qui aura peut-être d'autres arguments sur le plan salarial pour le ramener là-bas. Alors est-ce qu'il va
bon, après, si à la trêve vous êtes
refuser.
cinquième ou sixième, tu
Est-ce
vois.
qu'il... Ouais, après, est-ce qu'il va faire le choix du cœur ou le choix de l'argent? On va voir, parce qu'après, c'est vrai que l'envie, on va pas se le cacher, Bordeaux, sur le plan d'un joueur qui, au final, approche la fin de sa carrière. Hein. C'est d'ailleurs, j'ai du mal à le concevoir, vu qu'au final, il a pas éclos, il a éclos il n'y a pas si longtemps que ça, Tremolinas. Mais c'est vrai qu'il a déjà 31 ans. Et c'est vrai que le fait de revenir à Bordeaux, c'est quelque chose qui peut lui offrir une qualité de vie et une fin de carrière plutôt sympathique. Et c'est vrai que si tu continues en losange et que tu dois te retrouver avec un trio d'attaque, Ounas, Menez, Malcolm, et avec Tremolinas et Sabali sur les côtés, et un milieu tout l'allant Vada Plasil, à défaut de mieux, bon, il y a de quoi être optimiste. Quand tu vois le match contre Guingamp, c'est vraiment la mauvaise gestion de l'équipe sur la deuxième mi-temps qui n'a fait que reculer. Et un peu comme Paris, tu sais, l'équipe n'a fait que reculer et en plus elle a manqué de justesse et elle n'a pas été bonne sur attaque rapide, ce qui fait qu'elle n'a fait que subir au final, elle n'a jamais été dangereuse et ça a ouvert la porte au coaching de Comboiré qui a fait rentrer des attaquants et qui a balancé, qui a pilonné la défense bordelaise qui a fini par craquer. Mais on va voir là, pour Bordeaux, il y a 3 matchs qui arrivent jusqu'à un choc face à Monaco où Bordeaux va jouer Dijon, Bastia et Lille.
oui.
Et c'est une séquence de matchs intéressante pour confirmer les progrès entrevus par le losange, par ce changement de système. Donc voilà, on va voir. Samedi, je serai au stade et puis je regarderai ça attentivement.
Pour avoir passé un week-end à Bordeaux avec justement Florent et Christophe, je confirme ce que tu dis, Florent, sur la qualité de vie. C'est une ville où il peut se passer des choses très intéressantes. Tout comme à Lille, la ville de Christophe, où en ce moment c'est très actif. Entre le départ d'Antenotti, la vente du club, Gérard Lopez qui veut toujours Bielsa, mais qui veut aussi, on ne sait pas qui trop qui. Donc fais-nous un petit résumé de la situation à Lille, Christophe. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au LOSC?
En ce moment, Antonetti n'est plus là. Il est parti en renonçant à ses indemnités. Mais chose qu'on ne savait peut-être pas forcément sur le moment, c'est qu'il avait une clause dans son contrat. Et qu'en gros, alors je ne connais pas exactement les détails, mais disons, il pouvait être libre chaque année. Il n'avait pas la sécurité du CDD. Et c'est lui qui avait demandé ça. Et je pense que c'est ça aussi qui a facilité le fait qu'on lui signe une prolongation. Parce que du coup, il y avait beaucoup moins d'engagement que s'il fallait lui payer automatiquement ses 3 années de contrat. Là, il n'y avait pas d'indemnité à lui signer. Donc, pour Lille, ça explique qu'ils aient pu s'en séparer. Parce que sinon, vu que Lille est déjà sous le contrôle très attentif de la DNCG, ça aurait pu être problématique. Je ne sais pas du tout comment ils auraient payé, puisqu'ils n'ont pas pu payer de Préville, pour qui ils ont dû faire une petite combine pour pouvoir le rapatrier et qui pour l'instant n'est qu'en prêt. Et pareil pour Slity, c'est un petit peu différent, mais disons qu'ils n'ont pas encore versé des sous. C'est en plusieurs mensualités. Enfin bon, bref, ils ont encore plusieurs paiements à venir. Et donc, s'ils avaient dû en ajouter Antonetti à ça, ça aurait été un petit peu compliqué. Sauf bien sûr être 100% sûr d'être acheté. Mais là, c'est pas encore officiel, même si c'est en bonne voie. A priori, il reste plus que de la paperasse pour que Lopez devienne le nouveau proprio. Là, logiquement, ça devrait être bon. Mais donc bref, Antonetti n'est plus là. Maintenant, c'est Colo, on va dire l'adjoint, mais qui était adjoint d'à peu près tout le monde depuis pas mal d'années à Lille, une espèce de Franck Passy nordiste, même si c'est un sudiste, je crois qu'il est du
Ah,
Var.
mais
Mais
il a joué longtemps, il est là depuis très longtemps, ouais, comme tu le
ouais,
disais.
c'est ça, c'est un ancien joueur, ancien attaquant reconverti milieu, qui n'était pas un très très grand joueur, mais qui est un petit peu, peut-être pas emblématique, mais voilà, c'est quelqu'un du cru. Et qui va prendre a priori les rênes en attendant que Lopez soit officiellement intronisé et que lui-même nomme via ses conseillers, ses partenaires, tout ça, puisse trouver un entraîneur. Alors là, c'est toutes les rumeurs autour du nouvel entraîneur. En fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on regarde un petit peu les affinités des futurs gens importants. Alors, l'affinité de Gérard Lopez, a priori, c'est Bielsa, mais on a du mal à imaginer Bielsa travailler avec Campos. On a du mal à. Enfin, déjà, tout ce qui entoure Bielsa, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'on l'annonce toujours un peu partout. Là, il était annoncé aux USA il y a quelques temps et on lui avait demandé s'il était prêt ou pas à prendre les USA. Lui, tout de suite, voulait déjà changer le calendrier et la MLS, donc je pense qu'il était un petit peu trop extrême pour les
On peut dire que
Américains. Ils se sont dit, bon.
c'est pas quelqu'un qui est dans les concessions, Bielsa, donc c'est sûr qu'il faut
C'est
pas.
ça.
C'est tu.
Donc là, ils s'est dit, bon, on va prendre Bruce Arena qui était déjà là à l'époque aux États-Unis, on va pas se faire chier. Parce que Bielsa, c'est peut-être bien, mais il va nous demander trop de trucs. Là, on va partir dans un délire, il va falloir tout changer.
Bielsa, il aurait posé un
Donc,
ultimatum à Trump ou des trucs comme ça, tu sais, le mec complètement fou.
ouais, c'est ça. Donc Bielsa à prendre avec des grosses pincettes parce que Bielsa, parce qu'on finalement, c'est pas vraiment la teneur des rapports entre lui et Lopez. On dit qu'ils sont potes, tout ça, mais on n'a jamais eu le fin mot
Oui,
de l'histoire. Il y a plus de gens qui se
c'est surtout
réclament.
Lopez qui dit qu'il est pote de Bielsa, quoi.
Bah c'est ça, il y a plus de gens qui se disent amis de Bielsa que Bielsa qui dit oui, c'est mon ami, quoi. Donc voilà.
Et comme il donne pas d'interview, c'est difficile d'avoir la vérité, quoi.
Voilà, donc on est sur deux autres noms, sinon. Alors un, c'est un peu plus par association d'idées, c'est Marc Wijnmots, tout simplement
Ouf.
parce qu'il est représenté par. Oui, je sais, c'est un petit peu. C'est pas facile. Parce qu'il est représenté par Mendes, qui est lui-même pote de Campos, etc. Donc on fait lien, sachant qu'en plus Wijnmots dit qu'il veut prendre un club, qu'il a refusé l'Algérie pour ça.
C'est pas facile, surtout
Et
après ce que nous a dit Guillaume la semaine dernière, en fait.
ouais, c'est ça. Donc en plus Wijnmots, à la tête d'un club, on n'a pas un vécu pour dire oui, ça va être bien, ça va pas être bien. Donc ça serait l'incertitude. Mais bon, vu que c'est un protégé de Mendes et que Mendes arrive assez facilement à caler ses clients. C'est possible, mais sinon le favori c'est Vitor Pereira, qui est ancien entraîneur de Porto, ancien entraîneur de l'Olympiakos, et célèbre notamment, au-delà du fait d'avoir, je crois, fait un doublé coupe championnat plus une avec l'Olympiakos plus une finale européenne avec Porto, célèbre pour une fois avoir célébré après un Olympiakos Panathinaikos, avoir fêté la victoire en bas des tribunes du Pana.
Ouais. Il est taré.
Il y a des lancers de chaises, des lancers de fumigène et une invasion ouais. de terrain des supporters qui avaient pété un câble de voir le coach adverse les narguer.
Vivement la remontée de Lens, donc.
Alors bémol, petit bémol sur le palmarès que Christophe, que tu viens de citer, de Victor Pereira. Alors, il faut savoir qu'en Grèce, tout le monde fait doubler Coupe championnat avec l'Olympiakos depuis 10 ans. Donc, je pense que tu.
Même Michel.
Voilà, tu pourrais mettre n'importe qui. N'importe qui ferait le doublé. Ça se trouve, Rabé Sandratana ferait le doublé, j'en sais rien. Et puis, il est très mal vu par les supporters de l'Olympiakos. Hein. Il a laissé une très mauvaise histoire, une très mauvaise souvenir là-bas. Il n'est pas réputé pour être un très bon tacticien. Donc, c'est une piste qui est un peu moins séduisante que Bielsa. Quoi.
Ouais, mais là, pour l'instant, il y a une piste séduisante, mais c'est la moins crédible. Et après, je pense qu'il y a quand même d'autres. Enfin, là, on est vraiment sur les premières rumeurs, mais le club n'a même pas été repris. Donc, c'est difficile de se projeter. Je pense qu'il y a d'autres noms qui vont arriver dans la course. Je pense que Eric Roy et Libop vont faire acte de candidature comme pour tous les postes depuis 45 ans dans le football français.
Plus sérieusement, quel est
Paul Le Guen aussi.
Quelles sont les ambitions de Lopez à l'IA? Est-ce qu'il veut faire comme à l'OM, un club énorme avec l'objectif champion de France? Ou alors, est-ce que c'est un projet un peu moins ambitieux à la Monaco? Est-ce qu'il y a parlé de ça? Est-ce qu'on a des infos là-dessus?
C'est difficile à dire déjà. Je pense qu'il veut... Enfin, c'est le truc classique, c'est faire de Lille un grand club, mais il ne veut pas écraser le championnat. Alors, il a a priori une réserve financière assez intéressante qui semble plus fiable, même si toujours des réserves, parce qu'avec Lotus notamment, il n'a pas toujours tout payé, etc. Mais qui semble plus fiable que tous les Saoudiens ou tous les Chinois qui s'annoncent dans des clubs, dans des coins un peu paumés de France, hein, Sedan ou autre, et qui disent oui, on a des plus grosses réserves financières que le Qatar, ouais. On peut gagner la Ligue des Champions. Donc là, a priori...
Pour l'instant, les Chinois à Sochaux, c'est pareil, c'est pas très...
Ouais. Et puis Nancy, c'est aussi... Enfin, on sait pas toujours trop quelle est la véritable teneur des actifs financiers de la personne qu'on a en face. Lui, a priori, il y a un petit peu plus de garantie, il a un projet un peu plus solide avec directeur sportif, etc. Et on ramène pas Campos pour faire 15e. Mais je pense qu'on est sur une optique top 5 l'année prochaine, top 3 les années suivantes, présence régulière en Ligue des Champions, faire de Lille un club qui remplit son stade, parce que là, le stade est à moitié vide à chaque match, ce qui coûte plus d'argent qu'il n'en rapporte, ce qui est aussi pour ça que Cook, qui était un temps pressenti pour être président, qui est le fondateur d'Omega Pharma, qui est aussi une équipe cycliste et qui détient aussi le club d'Ostende. C'est pour ça que lui s'est retiré, parce qu'il a compris qu'on ne pouvait pas faire d'argent avec ce stade. Il coûtait plus qu'il rapportait.
Et c'est via Ostende que Depréville a signé à Lille, en fait.
Voilà, c'est ça. Et bon, après, Cook n'aurait pas forcément pu être propriétaire de Lille, puisque là, Ostende, je crois, est 2 ou 3e du championnat, donc a des chances de jouer l'Europe.
Donc, mais Lille, non, donc il n'y a pas de souci. Lille a aucune chance de jouer l'Europe.
Mais s'il avait voulu investir, ça aurait pu être compliqué. Mais je pense que Lopez, on est sur une optique Ligue des Champions, à voir Lille régulièrement se battre avec Lyon-Monaco. Quoi. On n'est pas sur, comme avait dit Mamadov à son arrivée, on va acheter Falcao, le Falcao d'époque, et on veut rapidement gagner la Ligue des Champions. Quoi. On est un petit peu plus mesuré, même s'il y a des ambitions.
D'accord. Bah écoute, bah merci Christophe pour ce résumé. On aurait pu parler de Lille et de comment ils en sont arrivés là, mais ça prendrait 3 heures, donc on reviendra peut-être sur ça la prochaine fois pour un podcast spécial LOSC qui fera 200 écoutes. Mais voilà, merci Christophe pour ce petit point. Florent, est-ce que ça t'a plu ce petit point lillois? Est-ce que t'es confiant pour l'avenir du LOSC?
J'attends de voir, parce que bon, Gérard Lopez, c'est pas... Enfin, il parle beaucoup, quoi, pour l'instant.
C'est vrai qu'il, pour l'instant, il parle plus qu'il ne fait, mais l'arrivée de Campos semble entérinée, donc c'est déjà un très bon point pour le projet lillois à venir. Écoutez, merci à vous deux, messieurs, pour ce podcast, encore une fois, particulièrement long. On a fait Ligue des Champions plus deux clubs français intéressants. Merci à vous.
Ben de rien.
Et merci à toi.
On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Encore une fois, ce sera sur les clubs. On espère que ce sera tout aussi intéressant ce qui s'est passé cette semaine. Ciao.
Salut.
Salut.